Voilà. Alors, nous allons lire, si vous voulez bien, un passage dans la parole de Dieu qui se trouve dans l'évangile de Matthieu. Matthieu au chapitre 27. Matthieu 27 et à partir du verset 45. Matthieu 27 et le verset 45. Où nous lisons depuis la sixième heure, donc de midi, c'est basé sur l'heure romaine, et la première heure c'était 6 heures du matin, donc la sixième heure c'était midi, depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, donc 3 heures de l'après-midi, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani » c'est-à-dire, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire « Il appelle Élie ». Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver ». Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Et puis quelques versets dans Hébreux, l'épître aux Hébreux, et chapitre 10, Hébreux chapitre 10, et quelques versets, là, à partir du verset 1, Hébreux 10, 1. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir ? Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Mais le souvenir des sacrifices est renouvelé chaque année par des sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôtent les péchés. Verset 12, lui, Jésus, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Verset 17, il ajoute, « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités, or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. » Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Et puis juste 2 versets dans le chapitre 13, Hébreux 13 et verset 12. Hébreux 13 et le verset 12. C'est pourquoi cela, Jésus, aussi afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Je ne sais pas si vous avez vu le lien entre ces deux passages. Nous avons, dans le premier passage, dans Matthieu, Jésus qui rend l'esprit, et à ce moment-là, le voile du temple qui se déchire depuis le haut jusqu'en bas. Et puis, dans Hébreux chapitre 10, nous avons, si vous voulez, les bienfaits ou les avantages de ce qui s'est passé ce jour-là quand Jésus a rendu l'esprit, et quand le voile s'est déchiré. Et puis, dans le dernier verset, une exhortation pour nous, où je reviendrai plus tard. J'aurais bien aimé être là, dans le temple, ce jour-là, pour voir l'expression sur le visage du sacrificateur, du prêtre qui était de service dans le temple ce jour-là. quand tout d'un coup, il voit ce voile se déchirer depuis le haut jusqu'en bas. C'était vraiment extraordinaire. Je crois que vous connaissez la configuration du tabernacle, qui était devenu le temple, bien sûr. Il y avait le lieu saint, et puis le lieu très saint. Et ces deux lieux étaient séparés par un grand rideau, et ce qui était mis dans le tabernacle était devenu une réalité dans le dur, si on peut le dire ainsi, par le temple. Un grand rideau qui était tissé d'une certaine manière, et nous avons les descriptions de cela dans l'Ancien Testament. Et puis, Dieu déchire ce rideau depuis le haut jusqu'en bas. Je dis Dieu parce que ce n'est pas fait par une main humaine. C'est Dieu qui est intervenu, c'est Dieu qui annonçait un message à travers le fait que ce voile s'est déchiré. Depuis le haut jusqu'en bas, c'est Dieu qui est intervenu parce que si moi j'avais choisi de déchirer ce voile, j'aurais commencé par le bas. C'était plus facile, n'est-ce pas, de commencer par le bas et de déchirer vers le haut. Hein, ça c'est l'homme, mais puisque Dieu est différent, l'intervention de Dieu est différente, lui il a fait depuis le haut jusqu'en bas. Hein. Et puis, humainement parlant, si on voulait déchirer depuis le haut, eh bien, je n'ai pas exactement les dimensions du temple en tête, mais il aurait fallu prendre une échelle et monter là-haut. J'avais au moins, je crois, 10 mètres de hauteur, et de monter là-haut et commencer à déchirer le voile. Mais Dieu l'a fait. Et ça, c'est la manière dont Dieu travaille. Dieu fait des choses toujours d'une manière différente des hommes. Le prophète Ésaïe dit que ses voix sont au-dessus de nos voix. Ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Et c'est Dieu qui a fait cela par son intervention. Il y a aussi une leçon pour nous à travers cela, c'est-à-dire que Dieu peut intervenir d'une manière tout à fait extraordinaire et inattendue. Hein? Je suis sûr que le prêtre n'attendait pas ce jour-là la déchirure de ce voile. Il n'attendait pas du tout. Mais Dieu a choisi le moment où Jésus a accompli la volonté de son Père pour déchirer ce voile, et c'était tout à fait inattendu. Je ne vous connais pas ce matin, je ne connais pas vos circonstances, mais peut-être vous attendez l'intervention de Dieu dans vos circonstances. Eh bien, sachez que Dieu le fera à sa manière, il le fera depuis le haut jusqu'en bas, et il le fera peut-être à un moment aussi tout à fait inattendu, d'une manière inattendue. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais nous venons de signer pour une maison à Bouc-Bel-Air, et je peux dire que Dieu a agi d'une manière inattendue. C'était dans nos prières de prier qu'il fasse des choses infiniment au-delà de ce que nous pourrions penser ou imaginer. Et il a fait. Et croyez-moi que Dieu peut faire aussi dans vos circonstances, bien au-delà de ce que vous pourriez penser ou imaginer, dans votre vie, dans vos circonstances, depuis le haut jusqu'en bas, une manière bien au-dessus de nos manières et d'une manière tout à fait inattendue. Et puis nous avons lu dans ce deuxième passage, dans Hébreux chapitre 10, quelques avantages, quelques bienfaits du fait que ce voile a été déchiré. Et je dirais certaines choses, je le dis avec révérence, des choses qui étaient une impossibilité pour Dieu dans l'Ancien Testament, puisqu'il n'était pas pleinement satisfait des sacrifices qui étaient offerts. Nous avons lu qu'il y avait le souvenir de ces sacrifices, et si ces sacrifices avaient été parfaits, on n'aurait pas eu besoin de les offrir. Mais c'était nécessaire de les offrir chaque fois qu'on péchait, parce que justement, le sacrifice n'était pas parfait. Et nous avons lu aussi que c'était impossible, hein, Le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés du monde. Et puis nous avons lu, n'est-ce pas, au sujet de l'intervention de Jésus. Et quand ce voile s'est déchiré, je veux que vous imaginiez un grand rideau là au milieu de la pièce, et qui se déchire par le milieu, et puis qui nous laisse de chaque côté de la pièce. Et je suggère que ça illustre en quelque sorte les deux testaments que nous avons dans notre Bible. D'abord l'ancienne et puis le nouveau. Une nouvelle approche de Dieu, une nouvelle manière de venir à Dieu. Et ça c'était effectif, ça c'était devenu réel quand Jésus a offert ce sacrifice parfait. Et nous avons un premier bienfait, il y en a trois que j'ai relevés dans ce passage. Le premier dans le verset 12 que nous avons lu ensemble, lui, Jésus, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. J'aime bien l'image de s'asseoir. Vous savez que peut-être après une journée de travail, etc., on rentre à la maison, qu'est-ce qu'on fait? On s'assied, hein, on se repose. C'est un petit peu l'image que nous avons là, hein, conforté, non pas que John Stott, il a la science infuse ou la vérité infuse, mais je lisais un commentaire l'autre jour sur ce passage-là, et il suggère la même chose, que Jésus a fini son travail, donc il s'est assis. Curieusement, peut-être vous pouvez me donner une explication, curieusement, Étienne a vu Jésus debout à la droite de Dieu, quand il a rendu l'esprit dans Acte 7. Peut-être Jésus s'est levé de son siège, pour ainsi dire, pour accueillir son serviteur, je ne sais pas. Je n'ai pas le droit de spéculer là. Mais Jésus s'est assis parce qu'il avait fini le travail que Dieu lui avait donné de faire. Un sacrifice parfait. Par rapport au sacrifice imparfait de l'Ancien Testament, un sacrifice une fois pour toutes maintenant. Et cela veut dire pour nous que nous pouvons nous reposer sur ce seul sacrifice que Jésus a offert. Et j'aimerais poser une question ce matin à nous tous, comme je la pose à moi-même. Est-ce que c'est une réalité pour nous de nous reposer sur ce sacrifice ce matin? Est-ce que nous avons mis notre confiance en Jésus? Est-ce que nous comptons sur le sang versé à la croix pour notre salut? Ou peut-être il y a quelqu'un là ce matin qui pense qu'il peut mériter la faveur de Dieu en faisant ceci, en faisant cela, etc. Mais Jésus a tout fait. Il a tout accompli. Son cri sur la croix, c'était « Tout est accompli ». Une phrase merveilleuse. Et nous n'avons plus rien à faire que de mettre notre confiance dans ce que Jésus a fait pour notre salut. Est-ce que nous nous reposons là-dessus pour cela? Mais aussi en ce qui concerne notre vie chrétienne, est-ce que nous nous basons sur la croix et le sacrifice de la croix? Vous savez que si vous êtes venu à Jésus-Christ, quand vous vous êtes converti, vous êtes venu à la croix. Vous êtes venu, pour ainsi dire, symboliquement, vous agenouiller à la croix pour recevoir le salut de Dieu. Et vous savez que constamment, n'est-ce pas, constamment, nous devons revenir à la croix. Oui, pour être purifiés de nos péchés. Nous avons été purifiés une fois pour toutes, c'est vrai. Mais tout au long de la route, nous nous salissons, n'est-ce pas, par le péché. Et il faut revenir à la croix. La repentance n'est pas seulement au moment de la conversion. Il y a des chrétiens qui disent « Ah, je me suis repenti quand j'étais venu au Seigneur ». Quel dommage. Quel dommage que c'était une seule fois. Parce que nous avons besoin de repentance pratiquement tous les jours, n'est-ce pas? À cause de nos pensées, à cause de nos péchés. Et on revient à la croix et nous nous repentons. On s'agenouille devant la croix et on demande pardon au Seigneur et on reçoit le pardon du sang de Jésus. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Alors, est-ce que nous nous reposons ce matin sur ce sacrifice parfait, qui n'était pas le cas dans l'Ancien Testament, mais qui est maintenant le cas pour nous, hein, et que, qui nous sauve et qui nous lave aussi de tout péché. Vous savez, dans l'Ancien Testament, les sacrifices couvraient le péché, pour ainsi dire, faisaient que Dieu pourrait accepter le pécheur devant lui parce que le sacrifice avait été offert, mais ça n'a pas ôté le péché. Il y a une différence, hein. Et Jean-Baptiste, en parlant du Seigneur, dans Jean chapitre 1, verset 9, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Hein, et Jésus a ôté notre péché, hein, quand il a offert ce sacrifice. Le deuxième bienfait, c'est au verset 17 de Hébreux 10. Verset 17, il ajoute « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Or là où il y a pardon pour les péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. » Il y avait souvenir constant dans l'Ancien Testament, hein, impossibilité de pardon total, mais maintenant, il y a cette possibilité de pardon absolu. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Vous aurez noté peut-être que ce n'est pas marqué, j'oublierai leurs péchés ou leurs iniquités. L'oubli, c'est une faiblesse humaine. Moi, j'oublie des choses sur la raison pour laquelle je note des choses, parce que j'oublie pour me rappeler, etc., pour la raison pour laquelle nous avons des agendas. Mais Dieu n'a pas dit « j'oublierai leur péché », il a dit « je ne me souviendrai plus ». C'est différent, c'est différent. C'est un acte délibéré. Dieu choisit de ne plus se souvenir. Je ne sais pas si nous avons cette capacité de ne plus nous souvenir. Je ne sais pas. On se souvient, n'est-ce pas, surtout des choses mauvaises. Mais Dieu choisit de ne plus se souvenir de nos péchés et de nos iniquités. Le prophète dit qu'il a jeté nos péchés au fond de la mer. Et quelqu'un a ajouté, Dieu a mis un panneau, pêche interdite. Eh oui. Et nous sommes extrêmement doués à partir à la pêche. Et le diable est encore plus doué que nous, hein, pour nous rappeler de ce qu'on n'aurait pas dû dire, pour nous rappeler de ce qu'on n'aurait pas dû faire, etc. Mais Dieu ne se souvient plus. Il a jeté nos péchés au fond de la mer, et il y a ce panneau pêche interdite. Et c'est nous, souvent, qui partons à la pêche, n'est-ce pas? Et pire encore, nous partons à la pêche pour remonter les péchés des autres. Et oui, on se souvient bien des fautes des autres. Hein. Non pas les miennes, tellement. Non pas les nôtres, mais les autres. Oui, je me rappelle ce qu'il a dit, je me rappelle ce qu'il a fait, etc. Et pourtant, nous faisons ce que Dieu ne fait plus. Nous nous souvenons de ce que Dieu ne se souvient plus. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Et ça, c'était impossible à Dieu dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Hein? Donc, un sacrifice parfait, plus de souvenirs de nos péchés, mais aussi au verset 19, nous avons aussi lu, donc une libre entrée dans le sanctuaire. Une entrée illimitée. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, il y a toujours un voile, hein, c'est-à-dire de sa chair, son sacrifice. Hein, nous devons entrer librement dans la présence de Dieu. Comme vous le savez peut-être, ça c'était pas le privilège du souverain sacrificateur. Il n'osait pas entrer derrière ce rideau qu'une fois par an, le jour de l'expiation, pour faire un sacrifice pour lui-même et pour le peuple. Il entrait souvent dans la première pièce, dans le lieu saint, mais il n'osait pas entrer derrière ce rideau qu'une fois par an pour être devant le propitiatoire et pour asperger du sang sur ce lieu où il se rencontrait avec Dieu et il rencontrait Dieu de la part du peuple aussi, une fois par an. Mais maintenant, nous avons une libre entrée. Le voile a été déchiré et nous pouvons entrer dans la présence de Dieu à n'importe quel moment. Pas seulement le dimanche matin quand nous sommes au culte. Pas seulement dans les réunions de quartier qui ont été annoncées ce matin. Mais à n'importe quel moment. Et je suis sûr que vous bénéficiez de cette expérience d'entrer dans la présence de Dieu quand c'est nécessaire, quand nous avons besoin. N'est-ce pas? Nous avons la ligne directe avec Dieu. Et il y a des routes, et on les croise tout le temps, des routes qui ont été inaugurées pour nous, n'est-ce pas? Inaugurées par le conseil régional ou que sais-je encore. Hein? Quel dommage de ne pas emprunter ces routes qui ont été inaugurées pour nous, ces routes nouvelles qu'il y a, les autoroutes et d'autres routes aussi. Hein? Quel dommage de ne pas les emprunter. Et nous avons le privilège de les emprunter à n'importe quel moment. Je me rappelle quand il y avait la grève des camionneurs en France. Et j'ai rencontré à une conférence un Hollandais qui travaille parmi les camionneurs. Et il voyage en camping-car, il rencontre des camionneurs en Europe, etc. Et je lui ai dit un jour, il a dit, tu te rappelles la grève des camionneurs en France? Il a dit, laquelle grève? Il y a eu beaucoup. Mais je me rappelle de cette occasion où il y a eu grève des camionneurs et on n'était pas trop loin de l'autoroute. Je suis allé sur un pont, puis je regardais vers le nord et vers le sud et c'était bloqué de camions. C'était impressionnant. Trois voies, des kilomètres au nord et derrière vers Marseille. Bloqué, bouché, pas moyen de passer. Et je pensais à cette route que Jésus a inaugurée pour nous, qui n'est jamais bouchée, qui n'est jamais bloquée, où Dieu ne fait jamais grève, hein, et nous avons la ligne directe dans la présence de Dieu. Quel dommage de ne pas l'emprunter. Hein. Et puis, donc, Jésus est mort, la voile se déchire, Dieu intervient, il y a ces trois bienfaits que nous venons de lire. Et puis j'ai lu des versets, donc dans Hébreux chapitre 13. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte de Jérusalem, hors de la porte de la ville. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Nous avons le privilège de nous appuyer sur ce sacrifice parfait, de ne plus avoir le souvenir de nos péchés, d'entrer dans la présence de Dieu à n'importe quel moment, mais aussi nous avons le privilège de sortir en portant son opprobre. Je suis sûr que les Israélites étaient bien dans le camp. Je ne sais pas si vous avez vu des images là du camp d'Israël. Il y avait le tabernacle au milieu, et puis il y avait les tentes rangées selon l'ordre de Dieu, selon les tribus. Et ils étaient bien dans le camp, je suis sûr. Ils se sentaient en sécurité, ils apportaient leur sacrifice, le prêtre faisait le sacrifice pour eux. Ils étaient dans leur zone de confort. Ils étaient bien. Mais, en s'appuyant sur cette image, l'auteur aux Hébreux nous exhorte, nous encourage d'aller en dehors du camp. Comme Jésus a souffert en dehors de la porte de la ville, il nous encourage d'aller en dehors du camp, en dehors de notre zone de confort. J'imagine que vous avez fait du porte-à-porte en portant des invitations. Vous avez eu un bon accueil, c'est bien, c'est merveilleux. Mais faire du porte-à-porte, pour certains en tout cas, c'est sortir de notre zone de confort. Hein. C'est pas facile. Hein. Dieu m'appelle faire du porte-à-porte avec Alison à Grenoble, quand une des missionnaires de l'équipe a dit, Alison, tu es toujours à la maison, tu devrais aller avec Graham en après-midi faire du porte-à-porte. Elle est allée faire du porte-à-porte et elle avait horreur de ça. Et j'ai frappé la porte et elle m'a dit, il n'y a personne, Graham. Alors j'ai tapé plus fort pour que la personne entende. Alors j'ai pas qu'il n'y a personne pour qu'on parte. C'était dur, c'était difficile. Ça nous sort. Et puis l'évangélisation, n'est-ce pas? Souvent, ça nous sort de notre zone de confort. Mais nous sommes encouragés à le faire. Nous sommes encouragés à sortir du camp en portant l'opprobre du Seigneur pour témoigner pour lui. Jésus qui a été rejeté. Jésus qui a été condamné. Et nous sommes invités à nous associer à lui. C'est pas évident, hein? C'est pas évident. Mais Dieu nous donne ce privilège aussi, à cause des privilèges que nous avons de notre côté, ce privilège aussi de le représenter hors du camp, en portant son opprobre. Alors, lors de cette saison de Noël, que le Seigneur nous accorde le privilège de le faire, c'est un moment merveilleux de partager l'Évangile, un moment privilégié de porter l'Évangile, ce moment de Noël, hein, c'est propice. Eh bien, que Dieu nous encourage dans cela et dans notre témoignage. Voilà, que le Seigneur bénisse sa parole à tous nos cœurs et nous encourage à témoigner pour lui. Amen.